Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Bonsoir, merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
Allez, il est 9h40 sur France Inter et je suis si heureuse de retrouver la maison de la radio et de vous retrouver, vous. Alors il est impossible de reprendre là où nous nous sommes arrêtés il y a 3 mois. L'actualité des médias plus trépidante que jamais. Retournons-y par petites touches. Ce matin, coup de fil à une journaliste du Parisien. 30 ans de maison, 30 ans de terrain, de local plus précisément, au plus près des gens. Mais les éditions départementales du quotidien survivront-elles à la crise ? Avant cela, coup d'œil au programme télé avec un récit inédit de l'Exode. Juin 1940, la guerre pousse 10 millions de Français sur les routes. Une moitié du pays se déverse dans l'autre. Comment raconter aujourd'hui cet épisode mal connu dont pourtant nos archives, c'est une découverte, regorge d'images.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Je survole donc les routes noires de l'interminable sirop qui n'en finit plus de couler. On évacue, dit-on, les populations. Ce n'est déjà plus vrai. Elles s'évacuent d'elles-mêmes. La route est un fleuve impérieux. Les villages qu'elle balaie l'un après l'autre s'y vident d'eux-mêmes, comme s'ils crevaient dans l'égout commun. J'ai la vision soudaine, aiguë, d'une France qui perd ses entrailles.
Citation d'Antoine de Saint-Exupéry tirée du documentaire que diffusera France 3 à 21h. L'Exode est signé de l'historien Olivier Vivorca et d'une réalisatrice que j'ai le plaisir de recevoir ce matin. Bonjour Emmanuel Nobécourt.
Bonjour.
Dans votre récit de l'Exode, ce qui frappe, c'est la profusion d'images. D'où proviennent ces images d'abord ?
J'ai une documentaliste qui s'appelle Deborah Ford, qui a fait un travail absolument colossal de recherche d'archives. Et alors, il y a plusieurs fonds. Il y a le CPAD, qui est le fonds des archives de l'armée, parce qu'il y a eu beaucoup d'images tournées par les militaires à l'époque. Et il y a surtout des fonds de films de famille, des films personnels, qui sont déposés dans les cinémathèques régionales. Il y en a plusieurs en France, et c'est de vraies mines d'or. Il y a aussi des archives assez étonnantes qui sont des archives filmées par les soldats allemands eux-mêmes. À partir du moment où ils commencent à avancer en France, ils se filment. Et ce film, à l'époque, il y a des images assez exceptionnelles qui sont filmées en couleur. Donc c'est du Super 8 couleur. On a vraiment ratissé tout ce qu'on pouvait trouver. Ça a duré plusieurs mois, la recherche, quand même.
Le train s'est arrêté en pleine campagne. Et un peu plus bas, il y avait une ferme. Et mon père, avec d'autres personnes, est descendu pour demander de l'eau. Et le paysan fait payer l'eau. Mon père était horrifié. Il est revenu, il a dit, je vous apporte de l'eau, je l'ai payé.
Aux images des routes charriant ces hordes de marcheurs, ces bicyclettes, ces charrettes qui débordent de partout, vous ajoutez, Emmanuel Nobécourt, une réalité qui est peut-être moins connue. C'est ce qui s'est passé là où les gens sont partis, et là où les gens sont arrivés, c'est-à-dire des villes et des villages livrés à l'abandon, au pillage, et puis aussi des populations qui s'entassent ailleurs, frappées par la faim, par la pénurie, et le chacun pour soi.
Oui, parce qu'en fait, cette histoire de l'Exode, finalement, elle fait partie de l'imaginaire collectif de bon nombre de Français, puisque ça a quand même touché un quart de la population française à l'époque, et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule famille française qui n'est pas de près ou de loin eu un grand-père ou un parent ou un grand-oncle qui a vécu l'Exode. Et malheureusement, enfin, ce que je peux constater, c'est que c'est une histoire qui est assez mal connue. Quand on parle de l'Exode, on pense aux routes, effectivement, et aux gens qui fuient sur les routes, mais on a très peu d'idées sur le contexte réel et sur tout ce que ça a provoqué, cet Exode. Ce qui est frappant, c'est que ça s'est fait très rapidement, c'est-à-dire qu'en à peine un mois et demi, le pays s'est totalement effondré et la population a été livré à une panique absolument inédite. Et ça a été très peu raconté finalement. Il y a très peu d'images effectivement pour le montrer. Donc on a beaucoup fouillé, creusé pour essayer de trouver dans les actualités filmées de l'époque ce qui pouvait nous donner à comprendre ce contexte très méconnu finalement. Et puis surtout cet effondrement des institutions qui est très présente dans les témoignages écrits. Il y a une énorme littérature de témoignages de personnes connues comme Antoine de Saint-Exupéry, Jean Moulin, Léon Woerth, des gens que j'ai cités dans le film, mais aussi beaucoup, beaucoup d'anonymes qui ont écrit et tous leurs témoignages concordent.
Vous décrivez très bien la terreur hein, qui a poussé ces gens sur la route et puis l'âpreté hein, de ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire que vous dites que ça devient des routes de la mort, les routes de l'Exode.
Oui. Il y a un phénomène, en fait, très étonnant, enfin très inédit aussi à l'époque, c'est que la population civile est une cible militaire. Pendant la guerre de 14, ça se passait pas comme ça, la guerre se faisait entre soldats. Et là, les populations civiles deviennent une cible et un objectif parce que en terrorisant les populations, les Allemands espèrent accélérer l'effondrement de la France et la débâcle militaire, ce qui s'est produit d'ailleurs.
Ce qu'on sait, moi, Emmanuel Nebécourt, c'est la honte qu'ont éprouvé ceux qui ont choisi l'Exode après coup. Ce qu'on sait, moi, moins, c'est qu'on les a traités de fuyards et de traîtres.
Oui, parce qu'en fait, ils se sont, c'est malheureux qui sont partis dans une terreur absolue, en perdant tout, en rentrant chez eux, en ayant tout perdu, en ayant vécu la terreur, en ayant subi des deuils atroces, des blessures parfois. Ils ont été victimes deux fois, c'est-à-dire victimes de cette terreur et de ce que les Allemands leur ont infligé pour gagner la guerre, et ensuite victimes d'un pouvoir nouveau qui voulait faire mettre en place un ordre nouveau et liquider l'héritage d'une Ve République, selon eux, dévoyée. Et donc la honte a été un outil utilisé par ce nouveau pouvoir pour encore plus écraser les Français, et on comprend mieux quand on lit la presse pétainiste dans les derniers mois de l'été. C'est absolument hallucinant ce qui se dit sur les personnes qui ont fui.
Comme chaque mercredi à pareille heure, nous allons une fois de plus vous présenter notre émission à la recherche des enfants perdus.
Voici le cas de l'enfant recherché numéro 30. Il s'agit du petit Serge de l'Aune.
Alors, il y a l'Exode, il y a le retour d'Exode. Et ces deux processus ont fait éclater beaucoup de familles, ont laissé beaucoup d'enfants orphelins, ont même laissé des enfants sans identité. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les médias, radios et journaux de l'époque s'emplissent d'avis de recherche qui constituent pour vous des archives aujourd'hui.
Ben oui, ça c'est un des drames les plus terribles finalement de cet exode. Ces centaines de milliers d'enfants qui sont retrouvés séparés de leurs parents parfois dans des circonstances terribles. Je vous donne un exemple, une femme, c'était souvent des femmes et des enfants et des vieillards. Les hommes étaient mobilisés. J'ai lu des témoignages de femmes qui arrivent à Paris dans les centres d'accueil, et c'est Thérèse Catorès, la jeune bénévole qui s'occupe d'eux, qui raconte une femme qui a attaché ses 6 enfants par une corde comme des chèvres pour pas les perdre. Parce que finalement, sur ces routes où il y a des millions de gens qui marchent, qui sont mitraillés par les Stukas, quand la panique arrive avec les vols de Stukas qui se mettent à mitrailler, tout le monde se jette dans les fossés. Et puis quand on se relève, eh ben, y a des mamans qui sont mortes, il y a dans la panique des enfants qui se perdent et qui ne retrouvent pas leurs parents. Il y a aussi la fatigue qui pousse quelquefois des personnes qui sont sur des charrettes, dire à une dame, donnez-moi vos petits, je vais les mettre sur la charrette. Et puis à ce moment-là arrive le mitraillage, et puis la charrette part devant. En fait, il suffit de très peu de choses pour que des parents perdent leurs enfants et vice-versa. Et malheureusement, à l'époque, il n'y avait que les journaux et la radio. Je pense que ça a permis de retrouver un certain nombre d'enfants, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui ont fini en orphelinat, et des familles qui n'ont jamais retrouvé leurs enfants. Je pense que c'est très difficile de se projeter à l'époque et d'imaginer l'état de panique absolue qui fait que finalement on ne réfléchit plus. On agit à l'instinct. Et aujourd'hui, il y a des centaines de millions de gens qui vivent encore ça dans les pays en guerre. Et maintenant, je ne peux plus du tout regarder tous les migrants qui quittent les pays en guerre pour essayer de trouver un répit ailleurs de la même façon. C'est impossible. Nos aïeux l'ont vécu. Moi, mes parents, mon père l'a vécu avec ses frères et sœurs, les grands-parents de plein d'auditeurs. C'est difficile d'oublier maintenant que ça peut arriver très vite et qu'on peut sombrer dans la terreur et la panique très vite.
Merci beaucoup, Emmanuel Nebécourt. Et ce film, donc, que vous co-signez avec Olivier Vivorca, est à voir ce soir à 21h05 sur France 3, et il s'intitule L'Exode. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée.
Merci, au revoir.
L'instant M, sur France Inter.
L'actualité des médias, c'est également ce matin les groupes de presse durement frappés par la baisse des ventes et puis par la baisse des recettes publicitaires, des plans de réorganisation et d'économie annoncés les uns après les autres. Alors, Le Parisien aujourd'hui en France n'y coupera certainement pas. Le journal va présenter la semaine prochaine, le 16 juin exactement, son projet avec la ferme intention d'accélérer la transformation numérique de ses éditions. De quoi soulever la vive inquiétude de ces éditions départementales et des journalistes localiers qui y travaillent. Bonjour Corinne Neve.
Bonjour Sonia, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour et soyez la bienvenue sur France Inter, Corinne. Corinne, 30 ans de maison, un pilier des locales du Parisien. Vous êtes implantée dans le Val-de-Marne. J'aimerais simplement pour commencer, Corinne, que vous nous racontiez qu'est-ce que c'est que le travail d'un localier, Vous êtes 130 au Parisien à quadriller les départements quartier par quartier.
C'est cela même. On est 130 sur le terrain pour faire le tour des départements d'Île-de-France et de l'Oise. Donc nous avons 9 éditions locales, 130 personnes qui vont chercher l'information, 130 personnes qui réagissent quand l'actualité est là et qu'il faut y aller. On est présent du 1er janvier au 31 décembre. Voilà, on est sur le terrain tout le temps.
Les éditions départementales ont été regroupées en un cahier unique. Île-de-France, c'était pour faire face au Covid. Il y a beaucoup de journaux qui ont réaménagé leur pagination. Mais voilà, la mesure est maintenue jusqu'en septembre. Vous ne vous y attendiez pas. Plus qu'une page par département et puis le reste sur Internet.
Voilà, c'est-à-dire que le cahier unique fait effectivement 4, 5, 6 à 8 pages quelquefois. On y retrouve des informations qui viennent de partout. Donc que vous achetiez Le Parisien en Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne, à Paris ou dans les Yvelines, vous aurez la même information au cœur du journal, en plus des informations nationales. Ce qui n'était pas le cas avant. On s'attendait pas effectivement à cette décision de la direction de ne pas remettre les cahiers départementaux sur le papier.
Ouais.
Donc nous ça nous interroge et surtout ça nous inquiète fortement.
Pour l'avenir, évidemment, oui. Puisque, oui, parce que vous dites, le papier, il est très important. Il est important pour nos lecteurs, il est important pour les gens dont nous racontons la vie, les histoires, dont nous couvrons le quotidien.
Mais tout à fait. On tient à être dans chaque quartier, dans chaque rue, dans chaque ville, dans chaque village, pour la Seine-et-Marne, et l'Oise. Et c'est là où sont aussi nos lecteurs, il ne faut pas l'oublier. On a 300 000 lecteurs papier. Aujourd'hui, c'est le papier qui rapporte à peu près 80% du chiffre d'affaires chez nous. 37 000 abonnés sur le web, mais ça, c'est en développement aussi. On travaille pour les deux. Quand on fait un sujet, on va dans les quartiers. Quand on voit un sujet, on amène l'information, mais on va la chercher. On sait que les gens nous lisent encore. Aujourd'hui, les retours que l'on a, c'est que les gens ne sont pas contents de ce fameux cahier
unique
en fait. Ils demandent le retour aussi de leur information. Ce qui compte, c'est la locale, c'est ce qui se passe à côté de chez eux. On a plein de retours de gens qui, par exemple, je pense à cette dame qui s'appelle Missoumi, qui a une association qui s'appelle À cœur ouvert, qui travaille depuis des années à porter des repas chez les gens, à les aider, à porter des paniers, etc. Et elle me disait, quand je porte mes repas, quand je vais porter de la nourriture aux gens qui en ont besoin chez eux, je leur apporte aussi le journal papier.
Oui.
Ils en ont besoin.
Ils en ont besoin.
Dit-elle, c'est une fenêtre ouverte sur leur monde proche.
Ouais, et je fais un parallèle avec vos confrères de la Voix du Nord, qui eux aussi ont lancé une collecte avec les petits frères des pauvres pour pouvoir abonner des personnes âgées qui n'ont plus les moyens d'acheter le journal, parce que c'est pour eux aussi, pour ces personnes-là, il y a une vraie fracture numérique, en France, on le sait, une fenêtre sur le monde. C'est important ce que vous racontez, Corinne, puisque on a vécu aussi une année de gilets jaunes qui quartier par quartier disait, mais les médias sont loin en réalité. Nous, on a le besoin de les avoir auprès de nous. On a besoin d'avoir le journal avec nous, on a besoin d'avoir les journalistes avec nous. Le journal et les journalistes. Oui.
Tout à fait. Alors, vous parlez des Gilets jaunes, ça tombe très bien, puisque la fameuse pétition de Priscilla Ludowski qui a démarré à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne, c'était une pétition d'une anonyme contre l'augmentation des prix des carburants. Cette Priscilla Ludowski, elle est devenue le fer de lance des Gilets jaunes, et c'est une de nos journalistes qui a sorti cette histoire-là. On était là au moment où il y a eu cette pétition. On a remarqué cette pétition qui commençait à générer et plein de signatures, etc. On était là. Je peux vous citer plein d'exemples. Oui. On était là en 2012 quand le jeune prodige des échecs, Fahim, 11 ans, sans papier, on le remarque parce que on s'interroge. Il a 11 ans, il est sans papier, il ne peut pas participer aux tournois internationaux parce qu'il n'a pas ses papiers. Ça fait une vente incroyable.
Oui, et ça a même fait un film de cinéma, si ma mémoire est bonne.
Exactement.
Ouais, ça a même fait
un livre de Sophie Calenac.
Ouais, ouais.
Tout à fait.
Ouais,
et puis un film de PEF en 2019.
Exactement.
Et attendez,
voilà. Oui.
En 2019, on retourne voir Fahim.
Mm-hmm.
Et 7 ans après, il nous parle. Et ce qu'on a remarqué sur le terrain, une de nos consoeurs, Agnès Vive, le père de Fahim avait fait une revue de presse papier. Il avait gardé tout. Ça aussi, c'est important.
Oui.
Le papier, on le lit, on se le prête. Le journal, on se le prête, on se le passe, on découpe. Combien de clubs de sport ont des cahiers des entiers avec la découpe des papiers, des résultats, etc. Eh ben, les sports départementaux n'existent plus aux Parisiens. Ou alors, c'est en filigrane.
Alors,
c'est un choix de la direction.
Corinne, la direction, justement, elle va présenter le 16 juin un plan de réorganisation avec une volonté d'accélérer le numérique. Pour l'instant, il n'est pas dit, il n'est pas annoncé que vos emplois sont menacés, vos pages sont menacées dans leur existence imprimée, mais pas vos emplois pour l'instant.
On nous a quand même dit, après 2 AG hein, quand même, et un rassemblement, on nous a quand même répondu qu'il n'y aurait pas 130 licenciements dans le journal. 130, c'est le nombre, hein, je vous le rappelle, de localiers sur le terrain, en plus de la nationale. Il n'y aura pas 130. Quand on vous dit ça, on vous dit qu'il n'y en aura pas 130. La réaction de mes confrères, de mes consoeurs et moi-même, je me dis, bon, alors il y en aura combien? Parce que derrière cette accélération, derrière ce projet global qu'on a vu naître, tiens, la semaine dernière, lors d'une AG, tiens, on a entendu parler de ce projet. Derrière ce projet global, il y a une économie. En fait, ça rentre dans le cadre
d'un plan d'économie.
Dans un cadre économique, pardon, contraint.
Oui.
Donc, on sait très bien qu'il va y avoir des réductions de postes, voilà. Tous les postes vont être étudiés.
Et on imagine aussi votre
les postes des journalistes, des assistantes, etc.
On imagine votre inquiétude et évidemment l'instant M suit l'histoire parce que vous le racontez parfaitement, Corinne. Une locale, c'est un lien social. Merci pour votre témoignage, Corinne Neve. Et puis la semaine prochaine, on vous raconte la suite de l'histoire et l'avenir du Parisien. Merci, Corinne. Bonne journée à vous.
Je vous en prie. N'oubliez pas la pétition qui est en ligne. Merci.
On ne l'oublie pas.